I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue dans Positron, l'émission où on vous recommande trois trucs plutôt sympas, plutôt cool, en une vingtaine de minutes environ. C'est la troisième session de Positron, nous disons au revoir à l'équipe précédente, c'est-à-dire Cédric Bonnet et John Plisken alias Philippe Gedge. Ils ont été absolument au-delà de toutes mes espérances, faut dire que j'espérais pas grand-chose avec ces deux-là, pendant les quatre épisodes qui ont précédé, mais... toute bonne chose a une fin et il faut renouveler, c'est le renouveau, c'est le sel de la vie, comme diraient certains. Et pour saler nos quatre prochains épisodes, donc de la session 3, j'ai avec moi deux jeunes hommes d'une immense qualité que j'apprécie énormément, à savoir d'une part, par qui je commence ? Christophe, voilà.
Ah merci, tu donnes la primeur à l'âge, c'est ça ?
Je suis même pas sûr que ça soit le cas. Mais donc, Christophe Ponsol, le bien nommé.
Bonsoir Patrick.
Qui nous rejoint pour ces quatre épisodes. Comment vas-tu, Christophe ?
Très très bien. Je suis très content que tu me fasses l'honneur de m'inviter. Donc voilà. Bah,
c'est bien,
c'est
mieux que le contraire. Voilà.
J'espère que je serai à la hauteur de tes espérances.
J'espère aussi. Donc, le second confrère.
Oh, la pression.
C'est le camarade Olivier, alias Indeblix. Bien sûr, vous connaissez Christophe pour énormément d'émissions et ce qu'il officiait sur No Watch, et qu'il continue avec WAC, qui devrait reprendre bientôt, j'espère. Là, enfin, au moment où est diffusé cet épisode, ça aurait peut-être même déjà repris. Je ne veux pas trop m'avancer. Et Olivier, que je n'ai même pas laissé parler, officie dans Split Screen. Alors, je vais d'abord te dire bonjour.
Bonjour. Bonjour Patrick.
Comment vas-tu ?
Hello Christophe.
Bonjour Olivier, comment t'appelles-tu ?
Cette voix, cette voix suave. Et alors, bon, d'abord je t'ai dit bonjour et ensuite je te dis, mais qu'est-ce que ce split screen, qu'il est où ?
Il est enregistré, ça fait un petit moment qu'il est enregistré, mais voilà, les activités des uns des autres et surtout notre monteur, celui qui fait le site, qui fait tout, enfin bref, Hervé qui fait à peu près tout, est très occupé en ce moment, donc ça met un petit peu plus de temps, mais ça reprendra.
Ça reviendra, ça reviendra. Ok.
Il faut peut-être préciser qu'on connaît peut-être mieux Indeblix par son sobriquet.
C'est vrai. Indeblix est actif également sur Twitter sous ce nom-là et c'est celui qu'on connaît peut-être un petit peu plus. Enfin, dans Split Screen, tu t'appelles par ton prénom quand même.
Moi, je m'appelle rarement, mais les autres. Mais c'est vrai que les autres m'appellent plutôt Olivier, en effet.
Bon, voilà. Écoutez, nous avons fait les présentations. Oui. Je pense que les auditeurs sont maintenant conscient que nous avons une équipe de choc pour ces quatre prochains numéros. Pour celui-ci, il faut enfoncer un petit peu le clou en faisant un épisode absolument merveilleux, exceptionnel. Donc, je vais commencer avec un film qui, à mon avis, va pas plaire à tout le monde. Donc, en l'honneur du film Riddick qui est sorti au cinéma il y a quelques semaines, je vais vous parler du film Chronicles of Riddick, les Chroniques de Riddick, qui était le film précédent dans la série, qui pour moi est un film un petit peu mal aimé, à tort, et qui vaut la peine d'être redécouvert. Mm-hmm. Est-ce que vous connaissez les Chroniques de Riddick ? Est-ce que vous faites partie des gens qui l'aiment bien ou qui l'aiment pas ?
J'avoue que je suis pas un super spécialiste de Riddick, mais moi j'ai vu un film qui s'appelle Pitch Black. Ça fait partie du cycle de Riddick ou pas ?
C'est le premier, ouais.
C'est le premier, c'est ça. Alors je crois que c'est le seul que j'ai vu.
D'accord. Bah en fait, c'est assez délicat de parler du cycle de Riddick, effectivement, parce que le premier film de la série, qui s'appelle effectivement Pitch Black, est un film très très différent du second, qui s'appelle Les Chroniques de Riddick, et qui est le film que je recommande. Le truc, c'est que Pitch Black, je pense que tout le monde l'a vu, c'était un film assez intéressant, assez petit budget. Les trois ont été réalisés par David Twohy, T-W-O-Y. Merci. Et le premier est celui... qu'est-ce que j'ai dit? O-Y? Oui, H-Y, tout à fait.
O-H-Y.
Et c'est un petit peu ces films, un des films qui ont révélé Vin Diesel au grand public. Alors, Vin Diesel, on l'aime ou on l'aime pas. Moi, il se trouve que je l'aime bien, même dans ses jours un petit peu plus vieux où il commence à avoir pris un petit peu de poids. Mais moi, je l'aime bien. Et dans Pitch Black, c'était un film à petit budget qui était une sorte de, comment on peut dire, un petit peu de loin le même style qu'Alien. C'était un film plus de science-fiction épouvante qu'un film de science-fiction tout court. Et pour le second, ils ont utilisé le premier comme tremplin et ils ont voulu énormément étendre la franchise et lui donner un petit peu une mythologie de saga de science-fiction presque. Donc ils ont développé le personnage de Riddick, ils ont développé le monde, ils ont développé toute une mythologie, donc comme je disais, autour de ce personnage. Et il se trouve que le film a un petit peu fait un flop. Je comprends pourquoi le film n'a pas marché, parce que c'était très différent du premier. Il y a quelques petites erreurs, par exemple, l'un des personnages du premier qui était un petit peu surprenant, que je vais pas détailler plus que ça, mais revient dans le second, et il est beaucoup plus classique. Ils ont un petit peu gâché l'aspect intéressant de ce personnage secondaire du premier film. Mais à côté de ça, il y a énormément de qualité à ce film, Les Chroniques de Riddick, et je pense qu'il vaut le coup d'être revu, si vous l'aviez vu et que vous aviez été un petit peu déçu à l'époque parce que vous attendiez peut-être le même style que Pitch Black. Donc, c'est un film qui a deux éléments qui, pour moi, en font un excellent film de science-fiction. D'une part, le personnage de Riddick lui-même, qui déjà dans Pitch Black était assez... j'essaye de trouver un mot pour décrire, pour dire badass en français, ouais. Mais j'y arrive pas vraiment. Ouais. C'est un petit peu un tueur, c'est un mec super fort qui a cette impression de puissance, de... Mais c'est un peu plus qu'indestructible, c'est que t'as l'impression qu'il est fort, quoi. Tu le vois, ouais. Tu dis, celui-là, je vais pas l'emmerder. Et il y a quelques scènes dans les Chroniques de Riddick, notamment la scène avec le mug de café qui est mémorable. C'est une des scènes qu'on cite parmi les scènes les plus mémorables de ce genre de film. Donc le personnage en lui-même, à mon sens, fonctionne. C'est un personnage un petit peu classique de héros super fort que rien n'arrête. Mais là, il fonctionne vraiment. L'autre aspect...
Ça veut dire que Vin Diesel interprète un mug à un moment ?
Pas exactement.
Ah bon? Ah, parce que ça, c'est un rôle de composition.
Il fait une danse interprétative du mug.
Pas tant.
Non. Oui, c'est vrai que bon, certains peuvent dire qu'il a un petit peu le range, l'amplitude d'acteur d'un mug.
D'un mug.
Et l'autre aspect, c'est qu'ils ont développé dans ce film tout l'aspect des la culture des, je sais plus comment il s'appelle en français, les nécromangers. Les nécromangers, ouais. C'est ça. En anglais, en tout cas, c'est nécromangers. C'est cette culture de conquérant de l'espace. Ça fait un petit peu Albator, mais de cette race un petit peu étrange de conquérants qui viennent détruire des planètes et rallier tout le monde à leur foi de nécromongueur, de happeur de mort. Et ils ont toute une esthétique qui est vraiment réussie dans les costumes, dans les vaisseaux, dans les couleurs, dans tout ça, qui fonctionne vraiment bien. Ils développent un petit peu l'histoire de Riddick en même temps, et le tout forme un vrai film de science-fiction qui aurait pu devenir, pour moi, une saga de très très grande qualité. Malheureusement, il n'a pas marché.
Alors maintenant que tu cites les Necromongers, j'ai vu les Chronicles of Riddick.
Ah, d'accord.
Ouais, ça y est, je me souviens.
Ouais, et t'as aimé.
Il n'y a pas d'ailleurs un des comédiens qui joue dans Le Seigneur des Anneaux.
C'est Karl Urban.
Ouais, celui qui joue Théodred ou quelque chose comme ça.
Voilà, exactement. Ça Ouais. Je sais pas si c'était Audrey, je me rappelle plus avec tous ces noms elfiques. Il joue aussi Dredd dans l'adaptation du comics Dredd, nettement meilleur que Judge Dredd avec Stallone. Il joue dedans aussi. Très bon.
D'accord. Bon, c'est un personnage qui a un second rôle dans les Chroniques de Riddick, mais Donc tout ça pour dire que pour moi c'est vraiment un bon film de science-fiction qui est auquel vous risquez d'être passé à côté. Il date quand même de 2004 si je ne m'abuse, donc ça fait presque 10 ans. Pour moi il vaut le coup d'être revu et voilà. Donc moi je l'apprécie particulièrement. Rapidement, j'ai l'impression que tu avais l'air de pas être tout à fait d'accord, Olivier.
Ah non, moi je suis un gros fan de Riddick. Je suis un très très gros fan. J'adore Pitch Black. Les chroniques de Riddick, je comprends pas qu'il ait été mal reçu parce que je trouve que c'est complètement épique. Et je conseille aux gens d'ailleurs, maintenant qu'il est sorti en Blu-ray, d'acheter le Director's Cut puisqu'il y a à peu près un quart d'heure en plus dessus qui explique un petit peu plus l'enfance de Riddick par rapport au film initial lorsqu'il était sorti au cinéma. Et sur la première version en DVD. Donc moi je suis un gros fan. Donc là je peux pas te contrer dans ton choix. Ah non. Alors bon. Autant je déconseillerais vivement d'aller voir le troisième.
Qui est vraiment pas terrible.
Juste Riddick, c'est ça.
C'est celui-là.
Voilà, c'est
oui.
Ça ouais. Et moi j'y Ridicule, suis allé. Voilà. Ouais voilà, c'est ça que m'a
dit. Que je le fasse. Hein.
Et le troisième, ils ont essayé, étant donné que le deuxième avait pas marché, le côté space opéra avait pas du tout plu. Ils ont essayé de revenir un peu aux bases sur une planète, un peu le côté survival. Et en fait, ça marche pas vraiment. Ça marche pas vraiment.
Hélas.
Riddick, moi, quand ils ont... à la base, c'est un comics ou?
Non, même pas. Je crois que c'est un film original.
Parce que je trouve qu'il y a, dans l'esthétique des deux, il y a vraiment un aspect comique dans le personnage, dans la galerie des personnages et même dans la narration, je trouve.
Mais tu sais que le film justement Pitch Black à l'origine était, enfin, le personnage de Riddick est central, mais c'est pas vraiment sur lui. C'est vraiment avec les chroniques de Riddick que ça s'est recentré sur le personnage. Bref, les chroniques de Riddick, on est trois du coup à vous le recommander, donc vous pouvez pas le rater. Olivier, de quoi nous parles-tu aujourd'hui ?
Ben moi, je voudrais vous parler de musique, parce que bon, alors quand tu m'as dit à Positron, faut partager un bon plan, donc moi j'ai un bon plan musique, enfin j'en ai plusieurs, mais celui-là c'est vraiment un groupe anglais que j'adore, qui n'ont fait qu'un album qui est sorti en 2001, donc c'est pas tout jeune. C'est un groupe qui s'appelle Flotation Toy Warning. Et l'album, je vais vous donner le titre de l'album, mais comme ils n'en ont fait qu'un, de toute façon, vous pouvez pas franchement vous tromper. C'est Bluffer's Guide to the Flight Deck. Et c'est un album assez magnifique. Alors, au niveau du genre musical, on est dans quelque chose qu'on pourrait qualifier de pop baroque ou alors rock.
Oula, c'est bizarre tout de suite là.
Oui, c'est de l'indé, hein. C'est dans le rayon indépendant. C'est un mélange. Alors je sais pas si vous connaissez des groupes comme Mercury Rêve ou Sparkle Horse.
Sparkle Horse, ouais.
Voilà. Donc on est un peu dans cette mouvance là, c'est-à-dire que bon, c'est pas le truc sur lequel on va danser. C'est pas le truc pour se donner la pêche, hein, ça c'est que les choses soient claires. Mais sont des musiques qui sont vraiment envoûtantes, très très troublantes même parfois. Et l'ensemble de l'album, et ce qui est assez rare dans un album, puisque bon, très souvent il y a toujours 2-3 chansons un petit peu moins bien, l'ensemble de l'album est pour moi quasi parfait.
Mmh. Alors, est-ce que tu peux nous redonner le titre?
Alors, le groupe, c'est Flotation Toy Warning. Donc, Flotation, F-L-O-T-A-T-I-O-N, Toy comme un jouet, T-O-Y, et Warning, W-A-R-N-I-N-G.
D'accord.
Et ils ont fait qu'un album, donc vous pouvez pas vous tromper. Après, ils ont fait quelques hippies, comme on dit, et ils ont sorti un 45 tours il y a 2 ans de ça. Mais c'est un groupe qui s'est séparé en fait après cet album-là. Ils sont séparés, ils ont tous fait des trucs de leur côté, alors pas forcément dans la musique. Et là, ils essayent de se remettre ensemble, mais apparemment, ça accouche dans la douleur puisque chacun a son mot à dire. Et vraiment,
c'est pour ça que tu vois, sur Positron, il y a que moi qui ai mon mot à dire. Comme ça simplifie tout, tu vois. Tout de suite, c'est beaucoup plus facile.
Voilà.
Seul maître en sa demeure. Voilà.
Exactement. Donc, si vous aimez on peut y trouver, enfin, je sais pas, le groupe Beirut, par exemple, je sais pas si vous connaissez. Il y a un peu un côté Pink Floyd aussi. Il y a vraiment, C'est assez mélancolique, c'est assez aérien. Voilà, un peu Sigur Rós aussi. Ouais. Et vraiment, moi, c'est un album que j'ai découvert absolument par hasard et qui m'a complètement transporté. Et en me rencardant un petit peu sur Internet par la suite, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un espèce de culte autour de ce groupe. Moi, je les ai vus en concert. Déjà, c'était vachement bien. Et il y a un espèce de culte autour de ce groupe où tout le monde s'étonne, comme pour les chroniques de Riddick, que ça ait pas marché, quoi, en fait, puisque c'est les musiques, le chant, etc. C'est vraiment assez assez magnifique. D'accord. Donc voilà. Moi, je vous le conseille. Flotation Toy Warning, le seul album qui s'appelle Bluffer's Guide to the Flight Deck.
Super. Bah écoute, ça m'a bien donné envie, ouais. Donc je vais aller écouter ça sur iTunes.
Ça va faire partie de la playlist à découvrir.
La playlist Spotify.
Voilà, exactement.
Ils sont présents.
Super. Eh ben merci Olivier. Christophe, à ton tour de nous. Pardon, Olivier, tu peux répondre que tu es heureux de nous avoir fait découvrir ça.
Ah ben je suis ravi d'en parler. J'en parle à tout le monde. À chaque fois qu'on parle de musique, je dis est-ce que tu connais Flotation Toy Warning?
En même temps, attends, on va découvrir et puis après on te dira si c'était vraiment un bon conseil.
Ah bah oui.
C'est vrai.
Et là tu pourras nous dire bah écoutez, je suis content parce que
si tu
nous vois arriver avec des mines défaites.
Ouais, mais ça les goûts les couleurs, tu vois, c'est ça. J'en voudrais
exactement.
Pas.
Exactement.
Donc, on verra si ça sera écouter, je suis content ou écouter, je suis désolé. Christophe, à toi de nous étonner, de nous émerveiller, de nous enchanter, de nous éveiller, de nous charmer.
Eh bien, moi, je vais à la fois vous tout ça et puis je vais vous faire voyager. Je vais vous faire voyager dans l'espace et dans le temps, figurez-vous, mes petits amis.
Ok.
Parce que je vais vous parler d'une.
Je m'inquiète un peu là. Mais...
D'un manga magnifique. Et quand je dis manga, je devrais plutôt dire un roman graphique. Puisqu'il s'agit de Quartier Lointain. L'auteur, c'est.
C'est Quartier Latin.
Non, Quartier Lointain.
D'accord. Non, je voulais faire une blague et puis j'ai pas trouvé de jeu de mots. Donc,
ben non, en fait. C'est toi qui étais dans le lointain.
Je t'ai senti parti. Quartier lointain. En japonais s'appelle Harukana Machie.
Eh ben voilà.
Mais oui.
Alors l'auteur c'est Jiro Taniguchi, pardon.
Ouais.
C'est un manga qui a été traduit et qui est paru chez Casterman en 2010. Donc vous pouvez quand même trouver encore aujourd'hui. Il est en plusieurs tomes, je ne sais pas combien, parce que moi je l'ai eu en intégrale en fait.
Ouais, visiblement c'est deux tomes.
Voilà, deux tomes, sinon l'intégrale est très très bien. L'histoire, donc, c'est une histoire qui est toute simple au départ. Ça raconte l'histoire d'un cadre d'une quarantaine d'années, un cadre supérieur dans une grosse boîte au Japon. Il a une quarantaine d'années cet homme, et un soir il rentre du travail, donc il prend le train pour rentrer chez lui puisqu'il travaille à Kyoto et il doit rentrer à Tokyo là où il habite. Et
2h30 de Shinkansen à peu près, voilà. En fonction du Shinkansen que tu prends entre 2h30 et 3h.
Exactement.
Non, je dis ça parce que je suis en train de préparer mon voyage au Japon depuis deux semaines, donc voilà. Je pars en voyage de noces. Bon, bref, j'arrête de t'interrompre. Vas-y, continue.
Ah bon, donc... et alors comment tu y vas
Sinon alors guest house ou quoi alors
je pourrais vous en parler pendant 2 heures, mais
oui, mais l'émission ne fait qu'une demi-heure.
C'est bien le problème. Sinon,
oui.
Je me lâcherais.
Donc, et il se trouve qu'il est assez fatigué puisque la veille il a un petit peu trop picolé. Il n'a pas la tête, il a encore la tête un peu à l'envers et il se trompe de Shinkansen, et puis il se retrouve embarqué dans un train qui l'emmène vers la petite ville de son enfance, petite ville qu'il n'a pas vue depuis des années, dans laquelle il n'a pas mis les pieds depuis des années. Il arrive là-bas sur place, bon, il s'aperçoit qu'il s'est trompé de train, et le prochain train pour revenir en direction de Tokyo n'est pas avant plusieurs heures. Donc il se dit, bon bah plutôt que de rester bêtement dans la gare à attendre, je vais aller me balader un petit peu en ville. Il se balade, il retrouve un peu les rues de son enfance qui ont beaucoup beaucoup changé, et puis il se dit, bah tiens, puisque je suis là, ça fait quand même un moment que je l'ai pas fait, je vais aller me recueillir sur la tombe de ma maman. Donc il arrive dans le cimetière shintoïste il se recueille sur la tombe de sa maman et puis là il se sent pas bien, il s'évanouit un peu et quand il se réveille, eh bien quand il se réveille, il a 14 ans.
Bien sûr.
Voilà. Donc il est de nouveau dans son corps de 14 ans. Et il se reprécipite en ville et là toute la ville est revenue à l'époque où il avait 14 ans, donc avec les vieilles maisons et tout ça. Et mais non seulement la ville, mais aussi tous les gens qui la
connaît. Donc il revoit sa maman.
Donc il revoit sa maman qui est de nouveau vivante et il revoit son papa qui avait quitté le domicile familial quelques temps après.
Peut-être pas trop l'histoire.
Je n'en dis pas plus. Ouais. Passer la stupeur. Notre ami Hiroshi, il va essayer de tout faire pour revivre son passé en l'améliorant pour changer un peu le cours de l'histoire.
D'accord.
Voilà. Alors, si je vous raconte ça, vous me dites, ouais, bon, voilà, pourquoi pas. Et j'aurais eu la même réaction que vous si on en avait
parlé.
Ouais,
c'est un peu pourquoi pas en même temps. Enfin, surtout le début, t'as vu, au début, on faisait les imbéciles et puis au bout de quelques instants, on s'est quand même tu parce que c'est assez. Enfin, moi, je trouve que ça a l'air assez poétique.
Eh ben, c'est ça. C'est ça le mot exact, c'est poétique parce que en partant d'une histoire qui est très très simple, voire simpliste et presque sans intérêt. Eh bien, juste une toute petite pointe de surnaturel sur le fait de ce glissement de temps qui fait que Hiroshi se retrouve propulsé 30 ans en arrière. Eh ben, ça devient un récit passionnant et on plonge avec lui en plein dans son passé. On revit avec lui tous les moments forts de cette période si importante justement qu'est l'adolescence. Et le récit est vraiment très très bien maîtrisé, c'est parfait. Il y a toujours la pointe de nostalgie qu'il faut, mais sans tomber dans la mièvrerie. Hein, on n'est jamais dans le pathos ou autre. C'est très très juste, c'est très bien senti. Et l'autre avantage aussi, c'est que on découvre un petit peu par le biais de cet adolescent. Donc ça se passe dans les années 60. On découvre toute la mutation en fait du Japon qui a commencé sa modernisation. Donc par exemple justement, il suit aux actualités la construction du Shinkansen, par exemple, qui a commencé dans ces années-là. Et puis on le voit en train d'essayer d'éviter toutes les erreurs qu'il a commises auparavant dans ses études, dans ses rapports avec ses camarades, ses premiers émois amoureux, et puis le fait qu'il cherche à éviter ce drame familial qui a été le départ de son père. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est quelqu'un qui a l'expérience de vie d'un homme de plus de 45 ans et qui se retrouve dans le corps d'un enfant de 14 ans. Et qui justement se sert de toute son expérience pour essayer d'améliorer les choses. Donc ça donne des situations un petit peu cocasses et parfois assez rigolotes. Et fatalement, on se retrouve à se poser la question, mais si moi j'étais projeté dans mon passé comme ça, avec mon expérience d'aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais? Quelles erreurs j'essaierais de ne pas... quelle fille j'approcherais alors que je n'ai jamais osé lui parler? Quels efforts je ferai à l'école pour ne pas...
Moi, je sais. Hein.
Voilà. Ah oui.
Ah oui, oui. Carrément. Coralie, elle s'appelait.
Ah là là.
Ah ouais, c'était...
Ça va, Sonia, n'écoute pas.
Sonia est en Finlande pour quelques semaines, elle m'a abandonné. Je suis livré à moi-même, seul et extrêmement triste. C'est bizarre, hein, franchement.
Et du coup, tu repenses à... Ah, comment tu l'as dit?
Coralie. Non, mais non, Coralie. Ça c'est du lycée, la fille qui était jolie et que machin.
Et que tu as sans doute idéalisé. Ouais,
tu serais prêt à sacrifier ta vie d'aujourd'hui pour Coralie?
Ah bah, bien sûr que non. Ouais. Bien sûr que non, tu rigoles. Sonia, elle est partie quelques semaines. J'ai l'impression que c'est la fin du monde. Je sais plus quoi faire.
Non, puis Coralie, je l'ai revue l'autre jour. Elle fait 90 kilos.
Et alors
Elle a les fesses flasques et les seins en gants de toilette. Ouais. Non.
Bon, 90 kilos, ça peut bien se porter. Tu m'aurais dit 150, ça aurait pu être plus problématique.
Mais... Ah, ça va, t'as l'esprit large, c'est bien.
Bah, et disons que.
Moi, ton manga me fait penser un petit peu à Camille Redouble de
et oui.
Rémi Lovski.
Ouais. On pense immédiatement effectivement à Camille Redoux parce que c'est la même situation.
Je pense que Camille Redoux a dû sortir après.
Bah oui, parce que le manga a été fait au Japon en 2009. Il est sorti chez nous en 2010.
Il parle d'une sortie initiale en 98-99. Hein,
ah bon?
Sur Wikipédia, donc.
Wikipédia.
Bon, bref, mais écoute, non, mais
ce que je
voulais
dire, c'est que il y a déjà eu une adaptation au cinéma en 2010, donc l'année de sortie du manga en France. Il a été adapté. Alors vraiment adapté parce que pour le coup c'est un réalisateur français qui s'appelle Sam Garbaski qui l'a transposé à l'écran et qui donc a transposé également l'histoire du Japon en France.
Ah oui, sinon, d'accord, ok.
Bah moi j'ai pas vu le film, mais ce que j'en ai lu, c'est grosso modo c'est exactement il a repris le fil narratoire narratif du manga et il en a vraiment fait un film français quoi.
D'accord. Voilà.
Et la bande son est assurée par R, donc ça doit être pas mal. Voilà. Donc moi je le recommande chaudement Quartier Lointain pour tous, parce que tous les gens à qui Christine et moi nous l'avons fait découvrir, eh bien on a eu beaucoup de mal à récupérer le bouquin derrière. Voilà.
Bon, t'es gentil, tu me le rends maintenant. Ouais. Ok. Bon, bah très bien. Écoute, effectivement, ça a l'air plutôt séduisant. Donc, un grand merci, Christophe. Donc, on rappelle les trois positrons de l'émission: Chronicles of Riddick pour fans, Bluffer's Guide to the Flight Deck pour tous et Quartier Lointain pour tous. J'espère que vous trouverez, chers auditeurs, des petites choses qui vous plairont là-dedans. C'est déjà la fin de ce neuvième épisode de
Mon
Positron.
Dieu, mais que le temps passe vite. Que le temps passe vite.
Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas catastrophés. Vous avez encore trois épisodes avec ces excellents jeunes hommes que sont Olivier et Christophe. Le prochain épisode arrive dans 2 semaines à peine. Mais si, entre-temps, vous voulez plus de In the Blix ou de ses ponsoles, messieurs, où peut-on vous retrouver sur Internet, par exemple? Commençons par Olivier, puisque j'ai commencé avec Christophe pour les présentations.
Alors, sur Internet, In the Blix, dans à peu près tous les réseaux sociaux, etc. Dans le podcast Split Screen, avec mes collègues Gilles Dacosta et Hervé Quaral. Dans La Voix dans la tête, avec Tamala, qui est Séverine, oui. Elena et Guillaume. Et aussi sur le Daily Mars. On peut retrouver des petites news, ciné, machin, des critiques et compagnie. Dailymars.net, tenu par John Plisken, mon chef adoré, je vous aime.
On reste en famille, hein, comme quoi. Christophe, et pour toi?
Alors, moi sur Twitter, par exemple, vous pouvez me retrouver à @cponsol. Voilà, tout simplement.
Épelle Ponsol, parce qu'ils vont jamais y arriver.
Ah oui, alors @cponsole.
Alors l'important c'est 2 L en fait. Moi à chaque fois je me trompe, je mets 2 P, oui. Je mets 2... Bon, ok. Oui.
J'ai 2 L au cul. Hein? Non, tu connais pas la chanson, c'est pas grave.
Non, okay.
Le monde est glauque et ça s'écrit j'ai 2 L au cul, mon ami. Voilà. Et sinon vous pouvez me retrouver dans WAC toutes les semaines avec mon compère William, et puis 2 nouveaux chroniqueurs dont je n'ai pas le droit de dire le nom pour l'instant
surprise.
Parce que c'est une exclusivité. Donc voilà, toutes les semaines sur la chaîne YouTube WAC. Voilà.
Super. Merci Christophe. Pour conclure, je vais vous parler 2 secondes d'iTunes. Vous savez que on est sur iTunes comme tous les autres podcasts et que iTunes est très pratique pour découvrir de nouveaux podcasts. Donc si vous aimez déjà Positron, vous pouvez aller sur iTunes pour laisser une note et un avis, par exemple, pour aider d'autres personnes à nous découvrir. Vous pouvez faire comme Note Belle Pietri qui dit « Encore un très bon podcast ». Il nous dit « On prend du plaisir à écouter et c'est du très bon podcast. Mais quand vous parlez de musique, ça serait bien de passer un petit morceau. » Eh bien, je suis d'accord, notre belle Pietri. Le problème, c'est que la SACEM, si je ne m'abuse, n'autorise pas le passage d'extrait, même dans les droits, le fair play... les droits de, ah, je sais plus comment ça s'appelle,
enfin, fair use.
Le fair use. Alors, il faudrait que je vérifie en fait. Je l'ai pas encore fait, il faudrait que j'appelle la
SES. C'est pas 30
secondes ? Je crois
c'est entre 15 et 30.
Mais bon. Je sais qu'il y a quelque temps, c'était j'avais appelé la SACEM et il m'avait dit le contraire. Donc peut-être que ça a été réadapté, il faut que je les rappelle, il faudra que je le fasse. Je suis tout à fait d'accord, il faudrait qu'on passe un morceau. D'ailleurs, pour certains épisodes à venir, peut-être que je ferai une petite exception, vous comprendrez. Mais oui, je suis d'accord et il va falloir que je m'y attelle. Gecko Smurf, nous dit « On ne va pas s'ennuyer et un nouveau verbe va rentrer dans notre langue française, je positronne. » Je suis tout à fait d'accord, il y a l'avis continue, il dit beaucoup plus et beaucoup de choses très gentilles. Merci à toi et merci à tous ceux qui nous ont laissé 5 étoiles, voire moins, sur iTunes. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à le faire, vous le savez, ça nous aide énormément. Pour ma part, si vous voulez me retrouver sur Internet, le plus simple, c'est Twitter. Ça reste mon réseau social préféré. Je suis aussi sur Google+ et Facebook, évidemment. Mais si vous voulez me retrouver sur Twitter, c'est NotPatrick. Vous devez le connaître depuis le temps. Mais si vous arrivez sur Twitter, NotPatrick, c'est un bon point de départ, je trouve. Mais c'est mon opinion personnelle. Et quoi qu'il en soit, comme je le disais, on se retrouve dans 2 semaines avec, entre-temps, Upload, qui est disponible la semaine prochaine. Vous savez qu'on alterne entre les deux épisodes. Je vous fais tout plein de grosses bises et je vous dis à dans 2 semaines. Ciao à tous.
Ciao.
Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.